Bonjour à tous et bienvenue chez Tibère Édition. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau format qui nous permettra de vous parler de nos livres illustrés, de la vie de notre maison d'édition, de nos métiers, de nos recommandations lecture et surtout ce podcast nous permettra de donner la parole à nos illustratrices et illustrateurs de talent. Le champ des possibles est vaste, je vous donne rendez-vous sur Instagram et sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne manquer aucune sortie. J'espère que ça vous plaira et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Anne.
Bonjour Marjolaine.
On est ici pour parler de ton magnifique travail sur la dernière sortie de la maison Tibère Édition, Madame Bovary. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours pour commencer par le commencement?
Ok, alors, je m'appelle Anne.
Corrigan de ton nom.
Voilà, mon nom, d'artiste. Mon pseudo d'artiste, c'est Corrigan.
Pourquoi Corrigan, le petit lutin, c'est
oui.
Un lutin breton, non, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est un vilain lutin en plus. Non, il est pas cool, le Corrigan. En fait, le Corrigan à la base, ouais. Voilà. Et comme quand je me suis lancée, j'étais rennaise. Et j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec mon prénom, parce que je voulais qu'il figure quand même dedans. Et voilà.
Et voilà,
Corrigan.
Ok, Corrigan, voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Et ben voilà, je suis illustratrice depuis 8 ans.
D'accord.
Je suis autodidacte. À la base, j'ai fait des études de tourisme.
Et tu t'es lancée comme ça, un beau jour, t'as pris...
Et je me suis lancée pendant mon congé parental.
D'accord.
Parce que j'ai eu mes enfants un peu rapprochés, donc j'ai pris un congé parental. Et il faut avouer que deux enfants rapprochés, ben, on n'est pas vraiment à sortir, hein, on est bien enfermé chez soi quand même un peu. Voilà. Et donc sur un coup de tête, je suis allée à la Fnac m'acheter la tablette graphique la plus bas de gamme qui soit, mais oui. Voilà, premier prix. Et je me suis amusée un peu
à dessiner
sur ce que je vivais en fait, tout simplement, sur ma vie de maman.
La parentalité du
voilà.
Coup.
Okay. Comme ça à la base, hein, sans arrière-pensée ni rien, mais voilà.
Et tu dessinais étant petite?
Oui, j'ai dessiné, après j'ai jamais eu... Bon, je suis jamais sortie du lot, hein,
d'accord.
Rien. Mais je suis d'une famille qui gribouille pas mal.
D'accord.
J'ai une maman très douée, j'ai une sœur très douée aussi, enfin voilà. Donc je suis un peu née quand même dans le dessin.
D'accord.
Voilà, mais j'ai jamais eu l'idée de penser...
Devenir illustratrice et que ce soit ton métier en fait.
Mais jamais.
D'accord.
Ceci dit, pendant mon congé parental, je comptais de toute façon changer d'orientation, ça me plaisait pas ce que je faisais.
Tu faisais quoi dans le tourisme?
J'étais en agence de voyage.
D'accord.
Mais j'aimais pas du tout travailler en entreprise, ça me correspondait pas du tout à mon tempérament, tout ça, donc j'aimais pas ça, c'est vraiment pas donc de toute façon je pensais me réorienter pendant mon congé parental et en fait ça s'est fait tout seul, donc okay. Trop bien.
Et quelqu'un t'a repéré?
Bah en fait je postais mes dessins sur
Instagram. D'accord.
Oh, non, c'était pas Instagram à l'époque.
Oui, pardon.
Il y a 8 ans c'était Facebook, ma
d'accord,
bonne dame.
Facebook, excuse-moi.
Non, c'était Facebook et puis mon blog et tout ça. En fait avant ça j'avais déjà un blog pour parler de ma vie de maman et tout, et en fait ça a basculé en dessin, donc j'avais déjà une petite communauté en fait qui me suivait, qui a basculé aussi sur voilà, donc c'était cool. Et en fait de fil en aiguille on m'a commandé des choses et du coup il y a un
d'accord.
Moment je me suis dit bah va falloir légaliser tout ça.
Okay. Donc,
bah, et j'étais ravie de faire ça vraiment,
ouais.
Alors là c'était un bonheur pour moi de me dire incroyable, les gens ont assez confiance en moi pour me commander des choses.
Et tu parles de quoi dans ton travail? Qu'est-ce qu'on te commande en fait comme
au
comme
tout
travail?
Début on me commandait des bannières pour les blogs, des trucs comme
d'accord,
ça,
ouais.
Des avatars, des trucs tout simple comme ça. Et puis bah, petit à petit, en fait, comme moi, je publie énormément sur le thème du maternage, voilà. Et ben finalement, on m'a commandé aussi des portraits de famille, des logos, même des illustrations de livres, des choses comme ça.
D'accord.
Voilà. Donc maintenant, je suis à 100% à mon compte depuis à peu près 8 ans. Et je changerais ça pour rien au monde.
D'accord. Et t'as publié plusieurs BD, plusieurs
ouvrages? J'ai illustré plusieurs ouvrages.
D'accord.
Que je n'avais pas écrits.
D'accord.
Voilà, des choses qu'on m'a commandées. Mais en 2021, j'ai effectivement publié ma première bande dessinée où je suis à 100%
à
l'écriture, au dessin. Donc ça, c'est un rêve. Accompli, check sur la liste, et c'est trop génial quoi.
Et ça s'appelle
L'or du soir qui tombe,
et ça parle de
beaucoup de choses
ok. Mais
c'est une histoire fictive dans laquelle je retransmets un témoignage sur le deuil périnatal notamment, qui est un sujet difficile et surtout très tabou, dont je parle énormément sur mes réseaux sociaux.
Oui.
Et tout ça,
ouais.
Pourquoi? Parce que les gens m'en ont parlé et que j'étais très sensibilisée à ça, et que finalement bah, je me suis Je me suis laissée emporter par cette cause.
Et alors, ça me fait le deuil périnatal, c'est quoi? Est-ce que ça regroupe les fausses couches?
Oui.
Ou les fausses couches tardives? Enfin, je sais pas, il y a différents degrés
de... Les fausses couches tardives, ouais. Les bébés qui décèdent à la naissance, qui décèdent aussi quelques mois après.
D'accord, ok.
Et ça regroupe. Mais ça, en fait, il n'y a pas de critères, en fait.
Oui, d'accord.
Et même les avortements, après tout, ça n'a rien de périnatal.
Parce que pour les femmes, ça peut être un traumatisme. Enfin,
exactement.
C'est un traumatisme, même les avortements.
Voilà. En fait,
il n'y a pas de règles. C'est pour les gens qui ont besoin.
Il n'y a pas de cas à remplir. Souvent, on en parle dans ces cas-là. Voilà.
D'accord. Donc, L'or du soir qui tombe, qui est publié aux éditions...
Elle et graine.
D'accord.
Elle et graine.
Voilà. OK.
Et donc, qui parle pas que de ça, hein. C'est aussi toute l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à fonder une famille, qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et effectivement, il y a ces désirs d'enfants qui finit ensuite sur cette perte de bébé, donc en fin de grossesse. Et ensuite, c'est tout un parcours, justement, pour fonder leur famille d'une manière différente, c'est-à-dire en allant vers l'adoption.
Ouais.
L'adoption d'un enfant différent. Et donc, j'apporte vraiment beaucoup de thèmes en une seule BD, mais c'était que des thèmes qui me tenaient à cœur. Et puis cette histoire, elle était dans ma tête depuis longtemps, donc voilà.
Et puis c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. Oui. Maintenant, la parole commence à se libérer un petit peu, notamment avec d'autres podcasts, comme je ne sais pas si tu suis Bliss Story de Clémentine Gallet.
Je connais le nom.
Qui aborde parfois ces sujets un peu compliqué d'adoption, de deuil périnatal, etc. Mais...
Il y a le podcast Au Revoir aussi, qui est un podcast vraiment sur le deuil périnatal. J'avais fait un épisode chez eux aussi.
D'accord, ouais. Et on le mettra en barre d'infos
pour les gens qui sont intéressés.
Ouais. Et mon petit doigt me dit que tu travailles sur une autre BD qui sortira... Fin 2022 ?
Oui, dès la rentrée scolaire 2022,
okay. Alors,
toujours aux éditions Elle et Graine. Je fais une bande dessinée sur un autre sujet qui a besoin, qui est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus,
oui.
Mais qui a besoin un petit peu aussi de ses
de
supports,
visibilité.
Un peu, ouais. C'est l'allaitement maternel.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc ce sera drôle.
Oui.
Ce sera aussi plein de vérités criantes, de choses de vécu. Pas que mon vécu, hein, parce que oui. J'ai allaité longuement mes deux enfants, mais pas que, parce que bon, j'ai pas tout vécu. Donc j'ai demandé aussi à ma communauté de m'en raconter plein d'anecdotes. Et j'en ai repris notamment celles qui reviennent le plus souvent, ou des très drôles, ou d'autres qui sont moins drôles en fait.
Ouais.
Alors ça peut pas aborder tout, parce que mon héroïne elle peut pas tout vivre.
Hein.
Elle peut pas vivre à la fin un allaitement qui marche.
Ouais.
Voilà. Hein.
Ouais.
Mais voilà, ce sera, je pense, un cadeau sympa à offrir à une jeune maman.
Ok, et ça sera dans les bacs à la rentrée 2022, du coup.
En précommande sur Ulule,
voilà. Parlons-en, parce qu'en ce moment, à l'heure actuelle où on enregistre cet épisode, donc il y a une campagne Ulule de Tibère Édition autour de Madame Bovary, que tu as illustrée avec brio.
Ah,
moi, j'aimerais savoir, en plus on voit des petits spoils, des petites images publiées sur l'Instagram de Tibère Édition et sur ton Instagram, donc voir comment tu travailles, quels seront l'intérieur du roman qu'on va bientôt recevoir dans nos boîtes aux lettres pour les personnes qui ont participé à la campagne, et à partir du 15 avril dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre.
Oui.
Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu as rencontré François et Camille et l'équipe de Tibère Édition.
Avec les chats.
D'accord. Non. Les chats. Oui, les chats assistants.
Toute l'équipe.
Toute l'équipe.
Tibère, moi, je les suis depuis longtemps. Comme beaucoup de monde, je les suis depuis qu'ils ont sorti un livre avec Margot Motin.
Oui, les Jane Austen.
Alors, je ne sais plus par lesquels ils ont commencé. Est-ce que ce serait par Raison et Sentiment ? Je ne sais plus. Orgueil et Préjugé.
Orgueil et Préjugé. Je l'avais en anglais, j'étais Pride and Prejudice.
Voilà.
Orgueil et Préjugé, oui, avec Margot Motin.
Et donc, elle avait partagé, forcément.
Ouais,
il y a beaucoup de gens qui les ont découverts à ce moment-là, et y compris moi, parce que je suis Margot Motin depuis longtemps. Donc, moi, je les suis depuis ce temps-là, en fait, de mon siège.
Oui, tu es une fan.
Je suivais un peu lointain, non ? C'était un peu lointain, mais voilà, je les ai découverts.
Oui, tu as vu leur travail.
Voilà, et je suivais. Et j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et il y a un an à peu près, j'ai plus la date exacte, mais ils ont fait un appel à projet.
D'accord.
Donc, c'est génial parce que souvent, les éditeurs, il faut aller supplier devant les portes.
Faut envoyer ton projet, ton travail sans savoir si, sujet que tu traites les intéresse.
Et là, c'est eux qui viennent.
Tibère, qui demandent, envoyez-nous. Voilà,
envoyez-nous vos propositions.
C'est ça, et on verra, et puis on reviendra vers vous. Et je sais que François prend beaucoup de temps. Chaque projet qu'il reçoit, il rappelle une personne et il passe des heures à décortiquer, voir comment ça pourrait. Il aime bien ça, ça fait partie de.
Je suis d'accord. Quand il m'a contacté, on a vraiment discuté longuement, c'était très agréable.
Ouais.
Donc, moi, en fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que, comme j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la littérature classique, les beaux livres et tout, je me suis dit, génial, ça rejoint deux passions, quoi. Mon métier passion et puis.
Et puis ton amour de la littérature.
Et puis, je fais pas ça d'habitude avec le dessin, donc trop bien, je saute sur l'occasion, ça réunirait deux choses que j'aime, quoi.
Okay.
Donc, je vais envoyer. Dans les deux jours, quoi. Franchement, j'étais à fond.
T'as sauté sur l'occasion, vraiment.
J'étais motivée. Il va peut-être dire que c'était dans les trois jours. Très vite. J'ai envoyé quelque chose, en fait. Une planche et puis une idée de projet. Il m'a rappelé direct.
T'avais une idée de roman que tu voulais illustrer?
Oui, mais alors ça n'a pas été retenu.
T'avais proposé quoi?
Je ne sais pas si je peux le dire.
Ah, vas-y. Au pire, je le couperai. Vas-y, on veut savoir.
Tu demanderas tout à l'heure. Moi, j'avais proposé Les quatre filles du docteur March. Voilà, je me sentais bien dans ce livre-là et tout avec mon style. Je trouvais que ça collait bien.
Avec Joe March.
J'avais mis les quatre filles autour de leur maman et tout, c'était cool. C'était déjà un projet futur.
Ouais, c'est déjà un projet, je crois.
Donc voilà, c'est pas grave.
Rappelé.
François, il m'a rappelé hyper vite.
D'accord.
Donc trop bien. Peut-être que j'ai envoyé aussi suffisamment tôt pour pas te noyer dans Donc il m'a rappelé hyper vite en me disant qu'en fait, parce que moi je pensais qu'il me connaissait pas, Tibère. Mais vraiment.
Ouais.
Et il me dit, mais en fait, nous, on te suit depuis un moment, en fait. Mais pas avec le compte Tibère. Donc je peux pas le savoir.
Avec leur compte perso.
Voilà, donc ils me suivaient pour des raisons personnelles. Et du coup, je savais pas, j'étais trop contente de l'apprendre, ça m'a fait super plaisir. Et donc ils m'ont dit qu'ils appréciaient mon travail et qu'ils seraient contents de travailler avec moi, quoi.
Ok.
Génial.
Mais sur quoi? C'est ça.
Mais ça s'est pas décidé en un coup de fil. Hein.
La question, c'est de savoir sur quoi on va travailler.
Mais oui.
Et donc ça, c'est pas en un coup de fil.
Non, ça a mis du temps, ça.
D'accord.
Ouais, parce qu'il fallait trouver des choses qui correspondent bien à Tibère et puis.
Et toi qui te plaises aussi.
Et moi qui me plaise carrément.
Ah, quoi.
Bah oui. Alors au départ, moi, j'étais à fond dans les mais Victor Hugo parce que je suis trop fan. Ouais. Mais Victor Hugo, le nombre de pages un peu monstrueux. Et puis Victor Hugo, il faut absolument faire des décors incroyables parce qu'on va pas illustrer Notre-Dame de Paris sans dessiner Paris. Et c'est pas ma catégorie, là.
Ouais. D'accord.
Faut encore que je bosse pour ça.
Peut-être oui, dans quelques
années. Faut être un petit peu. Enfin, c'est pas ma catégorie, donc non. Et puis après, avec François, il me dit que quand même, moi, je suis. Enfin, ils aiment bien ce que je fais et puis je suis quand même plutôt connue pour dessiner des émotions.
Ouais.
Voilà. Ma BD, c'est ça. Mes dessins, c'est ça. Donc, faut qu'on trouve quelque chose qui est plus dans le personnage, pas les décors, mais le personnage, et d'aller dessiner des émotions. Et donc, ça s'est joué sur. Voilà, on a parlé de 2-3 trucs, et puis à force d'éliminer. Moi, il y en avait deux à la fin, ça me convenait. C'était Madame Bovary et La Dame aux Camélias de Dumas.
Oui.
Et j'ai laissé François choisir. Ouais. Et on est parti sur Madame Bovary, j'étais trop contente.
D'accord.
Voilà.
Et donc, Madame Bovary, tu connaissais, t'avais déjà lu, t'avais des vieux souvenirs, ou c'était quelque chose, l'histoire, tu l'avais encore bien en tête, ou tu t'étais replongée dedans?
Non, il a fallu que je me replonge carrément dedans. Madame Bovary, franchement. Vieux souvenirs lointains. Non. Je voyais, hein, quand je parlais et tout, mais il fallait que je me replonge dedans. Donc je l'ai relu, bien sûr.
Ouais.
Voilà. Mais en plus, en le relisant, j'ai re-eu un coup de cœur. Ça, c'est beau, re-eu, hein. On va voir un podcast.
C'est ça, le re-eu.
J'ai re-eu. Mais en fait, moi, je l'avais lu à l'époque où on lit un livre pour juste le scénario.
Ouais.
Et pas forcément pour la plume de l'auteur. Donc là, j'ai vraiment eu un coup de cœur à Flaubert, quoi.
Ah bah là, non mais voilà. Parce que bien évidemment, vu qu'on enregistre cette émission, j'ai relu un coup.
J'ai relu
Flaubert et je pense que à l'école, parce que je crois que c'est un livre qu'on nous a fait découvrir quand on était jeune et bête. Et je pense qu'à l'époque, peut-être que c'est avec mon âge, que je me suis posée, j'ai lu deux pages. Ouais. Et j'étais ébobie devant le style, l'écriture. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces derniers temps, je lisais beaucoup de littérature, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de travail dans l'écriture, c'est
droit au but.
Du livre contemporain avec des histoires prenantes, mais il n'y a pas de...
Il n'y a pas de style.
Il n'y a pas de style, il n'y a pas de travail. C'est un truc que tu avales comme ça, un peu... c'est bien de consommation de masse, voilà.
Ouais, et là, l'histoire, pas les lettres, quoi.
Et ouais. Là, voilà, chaque page, j'ai fait des screenshots.
Mais moi, j'ai mis des cœurs.
C'est tellement beau.
Moi, j'ai eu un livre, mon livre Madame Bovary. Je l'ai vraiment tiré dans tous les sens pour faire ce travail. Et de temps en temps, je mettais des petits cœurs. Genre, ça, c'est trop bien.
Ouais, non, ça, mais c'est génial, le style, c'est... Ouais, je suis retombée en amour avec Gustave, ce brave Gustave.
Ouais.
Et du coup, donc tu te replonges dans Madame Bovary. Tu as re-eu ton coup de cœur. On le martèle, le re-eu. Ça va rester.
Super.
Et du coup, comment t'envisages de travailler dessus? Je sais pas du tout, parce que c'est pas du tout illustratrice. Voilà, j'ai les mêmes capacités artistiques que... un lévrier afghan. Voilà. Je sais pas pourquoi.
Non, oui, l'analogie est sortie de
voilà. Du coup, comment... Enfin, tu as ce texte. Faut que tu l'illustres. Concrètement, comment ça fonctionne? François te dit, tu vas avoir tant de planches à faire. Comment tu choisis... Voilà, comment ça se passe?
Alors oui, j'ai quand même un minimum de planches à faire.
D'accord.
Parce que voilà, il faut que le livre soit vraiment illustré. Tibère, il vend des romans illustrés, donc on va pas faire 3 dessins, quoi. Les gens, il faut quand même qu'ils aient ce qu'ils attendent, quoi.
Une illustration.
Voilà. Donc il y a un nombre de planches, quoi, minimum, pour que ce soit bien, quoi. Et après, si je peux en faire plus, ça, j'en fais plus.
D'accord.
C'est ce que j'ai fait, parce que j'avais envie que ce soit...
Voilà.
Bah ouais, non, j'ai quand même, voilà, j'ai mis mon cœur là-dedans.
Et il y avait des passages précis, parce qu'on n'a pas vu tout l'intérieur du livre, est-ce qu'il y a des passages précis que tu as décidé, des passages coup de cœur, où tu dis ça, il faut absolument que je capte cet instant.
Oui, alors avec François, on est parti sur l'idée de faire Emma, donc Madame Bovary, c'est Emma dans tous ses états.
D'accord.
Voilà, c'était l'idée, puisqu'on était parti sur les émotions. Donc on part sur des portraits, déjà. Il n'y a pas de décor.
D'accord.
On est sur des portraits. Toutes les illustrations grandes, donc qui font une pleine page, c'est Emma, toujours.
D'accord.
On a après des petits Charles, des petits Rodolphe, des petits Léon qui se promènent aussi.
Ouais.
Mais les pleines pages, c'est Emma dans tous ses états. Donc effectivement, en fait, comme elle passe un peu par tous les états dans ce livre, je l'ai représentée, toutes ces émotions par lesquelles elle passe. Et donc, ça ponctue bien le livre, hein, finalement, de toute sa vie.
Et tu travailles comment? Avec un crayon à papier, un crayon
à
papier.
Ah oui, alors ma technique,
papier, on a vu sur Instagram de l'encre de Chine.
Ouais,
mais comment tu réalises ces planches? Et après, tu vas les montrer à François. Comment ça se passe?
Moi, je dessine de façon numérique. Voilà.
D'accord.
Comme pas mal d'autres.
Est-ce que c'est du vrai dessin?
Ouais, voilà.
Il y a un débat récemment sur l'Instagram de je ne sais plus quelle, en plus une grande dessinatrice, hein, c'est pas du vrai dessin parce que tu dessines numériquement.
Je sais bien qu'il y a débat, alors pour moi c'est un non-débat, enfin, aucun intérêt, mais effectivement il y en a que c'est pas du vrai dessin parce que je reviens dessus autant de fois que je veux, il n'y a pas les traces d'anciens trucs qu'on efface. Moi j'aime bien tout, ceux qui dessinent sur toile, sur papier, sur canson, mais j'adore.
Ouais.
Et je viens pas leur...
leur tirer les cheveux.
Oui, voilà. Moi, j'essine sur tablette parce que j'aime bien ça et que je trouve ça super pratique et ça me plaît beaucoup de travailler là-dessus.
C'est plus la praticité d'être sur tablette
plutôt
que... je sais pas, sur le papier, gommé, c'est peut-être plus...
Ah, puis je trouve que c'est vachement facile, parce qu'après, je transfère directement, j'ai pas besoin de scanner, d'enlever les choses qui... ou de faire les contrastes et tout ça. Non, c'est directement, paf, c'est prêt à... Donc voilà.
Prêt à être imprimé.
Voilà, mais j'irai pas défendre non plus ça, j'ai pas d'intérêt, en fait.
D'accord.
Pour moi, c'est
juste
un non-débat.
C'est de la praticité, c'est un non-débat.
Ouais.
D'accord. Ça te prend combien de temps pour faire une planche?
Alors, comme c'est un portrait et qu'il n'y a pas de décor, bon, ça va plus vite. Hein.
D'accord.
Donc, juste le dessin, je dirais qu'il me faut peut-être une heure et demie pour faire un
portrait
d'Emma.
D'accord, oui, quand même.
Mais derrière, il y a surtout le travail à la base de recherche dans le livre et de travail dans le livre. C'est ça qui a été plus long, parce que j'ai corné toutes mes petites pages, ça je veux ça, ça je veux ça, là je passe là, oui mais là celles-ci elles sont trop proches ces deux illustrations, donc un peu choisisse entre les deux, ce genre de choses.
Voilà. D'accord, tu fais plusieurs tests pour une seule illustration ou non, c'est un travail qui est allé plutôt rapidement?
Moi je suis plutôt spontanée.
D'accord.
Voilà, donc si ça vient, ça vient en fait. Et après par contre François il avait le droit aussi d'arriver en disant bien, bah voilà. Honnêtement, ça a été, hein. Il n'y a pas eu trop à... Au tout début, en fait, il a fallu voir un peu vers où on partait. On est parti vers du noir et blanc.
Okay.
C'est cool, je suis très contente parce que j'en fais peu pour mon
travail professionnel. Perso,
ouais. Et j'adore ça, le noir et blanc, je trouve que c'est génial. Donc là, en plus, avec tous les beaux décors que Camille a fait, c'est trop beau.
Voilà. Je veux savoir parce que Camille, ils nous ont un peu spoilé l'intérieur du livre, comment ça va être à l'intérieur. Est-ce que vous avez travaillé de concert avec Camille justement pour voir comment ça se mariait, etc.
Alors, il y a eu un moment, il a fallu. Parce que moi, j'avais fait quelques. Si, au départ, j'avais fait des décors. J'avais fait des décors, mais c'était des fonds, comme des patterns, quoi. J'avais fait tout dans des styles un peu art nouveau et tout. Voilà, je trouvais ça sympa.
Trop beau, en fait,
ça se mariait pas, on a enlevé, puis on a continué juste les portraits, puis finalement on part sur les beaux décors floraux, quand même un peu à art nouveau, qu'elle a quand même gardé l'esprit de Gamy, c'est juste trop beau ce qu'elle fait en plus. Donc,
c'est super. Et donc ta relation avec Emma, parlons-en. Parce que mine de rien, pour la dessiner, il faut s'en imprégner.
Oui.
Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de Madame Bovary? On débattait hors micro, quand on avait pas encore appuyé sur enregistrer, on débattait, genre, insupportable.
Emma, c'est compliqué. En fait, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai pas aimé Madame Bovary, désolée et tout. Mais en fait, il faut elle est compliquée, Emma.
Il y a plusieurs couches de lecture, dans l'œuvre.
Emma, à la première lecture, elle est fatigante de bêtises parce que elle fait que les mauvais choix tout c'est le temps, donc elle se met toujours dans la et ça termine pas bien.
On dirait, je sais pas si on dit ça pour les femmes, mais peut-être un peu de fatuité, tu vois. Elle est vaniteuse, elle est.
Oui, puis elle recherche toujours ce qu'elle a pas, puis quand elle l'a, ça lui suffit.
Oui, et puis au final, c'est toujours l'ennui.
Elle est toujours insatisfaite, elle a des espérances.
Grandiloquentes, alors qu'elle est pas du tout.
Donc elle est. Au début, elle est fatigante, on lui dit que. Tu l'as bien cherché. Oui. Voilà. Mais il faut avoir quand même une deuxième lecture. Il faut se placer aussi dans le contexte de l'époque. Emma, elle grandit au couvent. Hein. Enfin, elle est au couvent après sa petite enfance. Donc, elle est à l'adolescence au couvent. Et au couvent, elle lit. Elle fait partie d'un club de lecture. Et elle passe son temps à lire des romans de chevalerie.
D'amour courtois et de grandes...
Marie Stuart.
C'est
cité dans le livre. Hein. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le romantisme.
Romantisme.
Et elle ne sait pas ce qu'il y a d'autre, de toute façon, puisqu'elle est enfermée dans son couvent.
Déjà, tu vois qu'elle est vaniteuse parce qu'il y a un passage que je trouve extrêmement drôle sur la mort de sa mère où Flaubert, alors je vais pas bien le dire, mais elle se plonge dans des épanchements d'émotions dignes de Lamartine, et en fin de compte, même si ça lui convenait pas, elle reste dedans parce que ça fait bien. Tu vois, elle se dit, bon, alors déjà, il y a un petit terrain glissant là.
Non, mais tout à fait, de toute façon, oui, c'est clair. Donc ensuite, elle se retrouve chez son père à s'ennuyer comme un rat mort.
Dans sa ferme.
Voilà, et puis un beau jour se pointe ce médecin de campagne.
Oui.
Qui s'appelle Charles, qui vient soigner son papa et qui revient régulièrement prendre des nouvelles.
Parce qu'il est un petit peu amoureux quand même.
Voilà, bon, de toute façon, les médecins à cette époque-là, ils revenaient prendre des nouvelles parce qu'on n'avait pas les visios. Hein. et donc, il revient et puis effectivement, mais on sent pas une passion quand même.
Non,
il dit
pas...
juste qu'elle lui conviendrait bien.
Ouais.
Hein, c'est pas. Bon, bien.
C'est pas l'amour fou. Non, mais voilà.
Voilà, à cette époque-là, on prenait surtout pour épouse une femme qui. Convient, c'est bon, elle remplit toutes les cases, donc parfait. Elle, pareil.
Elle se marie un peu au premier venu, quoi. En même temps,
il y a que lui, mais il remplit bien les cases, il est médecin, quand même, il est gentil, bon. Son père est d'accord, et ben voilà. Il se marie.
C'est comme son père qui fait presque la déclaration. La demande en mariage, parce que Charles, il est trop.
Il n'ose pas trop.
Bon. Il n'ose pas trop.
Donc, le mariage est. En plus, à cette époque-là, une fois que les choses sont dites, pouf, en 15 jours, ils sont mariés. Ils faire des pâtisseries. Donc, ils sont mariés. Le mariage, à cette époque-là, c'est plusieurs jours de fête. Ouais. Bon, on n'est pas sur. Bon, c'est plan-plan.
Ils ont quand même passé 16 heures à table. Je l'ai noté.
C'est vrai.
16 heures à table.
Exact.
Donc, des champion.
Et puis finalement, bah, elle arrive chez lui, elle commence sa vie d'épouse et puis...
Lui est très amoureux.
Alors lui, il l'adore. Il l'adore parce que déjà, elle est belle.
Ouais.
Elle est belle, elle est donc super présente. C'est génial de l'avoir à son bras.
Elle est présente,
Sandra,
ouais, c'est ça.
Voilà. En plus, elle est
assez intelligente. Puis, il ne peut pas s'empêcher de lui faire des petits bisous, des petits machins. Enfin, il est... On en débattait tout à l'heure, c'est ce qu'on se disait. Est-ce que c'est Charles, le vrai personnage principal... Est-ce que c'est Emma, pardon, le vrai personnage principal de ce livre, ou est-ce que c'est Charles?
En tout cas, Charles, il est intéressant.
Ouais.
Il est intéressant.
C'est un personnage...
Au début, on pense... Voilà,
c'est ça, on laisse de côté à la première lecture. Ouais.
Voilà, en fait, il est intéressant.
Il est très intéressant.
Il est bonhomme.
Ouais. Hein,
voilà, il est bonhomme, il est gentil. D'un autre côté, il n'est pas passionnant. Hein. Il arrive, voilà, il enlève ses chaussures, il se met devant le poêle, il mange sa soupe.
Puis il est tellement méprisé par sa femme qu'on a envie de le mépriser.
Oui, il y a un côté, on se dit, bah allez, ouais, c'est vrai, allez, c'est quoi ta vie
chiant.
voilà, à l'époque, Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça commence. Et puis finalement, il déménage dans une ville un peu plus grande.
Enfin, ouais, Yonville, ou un truc comme ça, ouais.
En Normandie, ouais. Mais avant ça, ils vivent un super bal.
Oui.
Ils sont invités.
Le bal au château de la Vaubuissard, là.
Donc ils sont invités à un bal chez la haute. Hein.
Ouais, dans la haute société.
Voilà. Et donc, alors elle, là, la révélation. Là, ça ressemble à ses livres.
C'est ça.
Là, ça commence à ressembler à ses livres. Alors, bon, son mari, elle le trouve un peu... Bon, qui reste assis, il va quand même pas se mettre à danser.
Quand même. Oui, la réflexion qu'elle fait, mais vous êtes ridicule.
Charles.
Tu sais, je l'entends. Enfin, je sais que Flaubert travaillait beaucoup, tu sais, avec un gueuloir, c'est-à-dire qu'il gueulait tous ses textes pour voir si ça passait bien. C'est vrai que le peu de dialogue qu'on retrouve dans son œuvre, et notamment dans Madame Bovary, tu sais, tu l'entends parler avec en face, genre, mais vous êtes ridicule. Enfin, tu vois, j'imagine tellement comme une
pièce de théâtre.
Pistouille, quoi. C'est genre, mais vous êtes ridicule. T'as envie de la taper, Madame Bovary.
C'est ça.
Ah, elle m'énerve.
Et puis, il lui dit rien. Il dit rien.
C'est ça. Il lui dit rien.
Donc, il danse pas, parce que...
Oui, ben voilà. Mais elle, par contre, elle valse.
Alors, elle valse. C'est le champagne. Les gens des grands éventails. C'est la révélation de sa vie, ce truc. Mm-hmm. Elle veut vivre ça tous les jours. Sauf que c'est la seule fois de sa vie qu'elle va vivre ça. Et après, elle retourne à sa vie. Et je pense que ce bal, c'est un tournant dans sa vie. Après ça, c'est la dépression, en fait. Je pense. Hein. Elle rentre en dépression. Sa vie, c'est... Et donc après, il déménage.
Justement à cause de cette dépression, parce qu'elle fait des crises nerveuses, elle a des crises de mysticisme religieux aussi. Puis à ce compte-là, il y a plein de personnages aussi secondaires, l'abbé, le pharmacien quand elle arrive. Enfin, il y a plein de personnages secondaires qui sont hyper... qui ont beaucoup de...
Flaubert, il est là pour se moquer d'eux.
Ça,
en fait.
Ils ont beaucoup de saveurs.
Des petits notables de province, imbus d'eux-mêmes, qui croient être très importants. D'ailleurs, je vais te lire une citation si tu veux.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Parce que j'en ai une. Dès la première lecture, j'ai mis mon petit cœur à côté tellement je l'adore. Écoute, je trouve qu'elle dit tout.
Ouais.
Il y en a un, justement, des petits notables, je ne sais plus lequel exactement, qui parle d'une femme en disant. C'est une femme de grands moyens et qui ne serait pas déplacée dans une sous-préfecture. C'est génial. Bon,
génial.
Pour eux, c'est le top du top, la sous-préfecture. Et là, c'est ce qu'on peut attendre.
Ouais. Mais il faut voir tout le flonflon quand ils... Mais c'est ça, la sous-préfecture, les petits notables de province, quand ils nous font tout un pataquès sur les comices de Yonville. Les comices, donc c'est des fêtes agricoles, de Yonville-l'Abbé, où il y a le préfet qui arrive et ils en peuvent plus de faire des processions et des discours et des machins, pendant qu'Emma, elle est en train de se faire draguer par le fameux Rodolphe, qui deviendra son premier amant, bref, etc. Et derrière, t'as... En plus, c'est même pas le préfet qui a daigné se déplacer, c'est un conseiller du préfet.
Ouais,
et ils en peuvent plus,
les
mêmes. C'est ça, ils en peuvent plus de voilà, c'est trop d'honneur, c'est trop de...
Non, mais c'est très drôle là-dessus. Il est très caustique, il se moque d'eux et de façon non retenue. Hein,
et par contre, toi, j'ai pris un screenshot d'une citation justement où je crois que c'est le pharmacien par rapport à ton travail sur la parentalité, où à un moment donné, il parle de la maternité et il dit c'est une idée de Rousseau, peut-être un peu neuve encore, mais qui finira par triompher, j'en suis sûre, comme l'allaitement maternel et la vaccination.
C'est génial. C'est incroyable hein, de se dire...
C'est un pharmacien 19e, au 19e qui met... Et Flaubert met ça dans la bouche du pharmacien au 19e siècle qui te parle de l'allaitement maternel qui va triompher comme une idée de médecine validée par la médecine et qui doit être suivie pour le bien-être des nourrissons. Voilà, parenthèse fermée.
Non mais génial,
mais tu vois, c'est un truc que j'ai fait... Ouais. Ok, ouais. Ça c'est bon.
Ben, tu vois, moi celle-ci, je ne l'ai pas quittée. Merci de l'avoir ressorti.
Ouais, donc ouais. Là, il était très moderne, Flaubert.
De toute façon, oui. Hein. De toute façon, oui ouais.
Donc voilà, donc Emma, on revient à Emma qui en déprime après son bac.
Voilà, donc elle déménage et puis là, effectivement, elle rencontre tout un tas de petits
notables
assez ridicules en voilà. Fait. Enfin, en tout cas, qui sont tournés un peu en ridicule par Flaubert. Et elle rencontre Rodolphe.
Ouais, c'est ça.
Rodolphe qui est quand même un sacré mufle, hein, pour parler bien.
Et puis on le sait dès le début.
On le sait dès le début parce que dès qu'il flash un peu sur elle, on le voit un peu soliloqué là dans la campagne en se disant oh là là mais parfait.
Puis elle en veut quoi.
Ouais elle a faim en gros.
Ouais elle a faim ouais.
Et par contre attention, faudra s'en débarrasser un moment donc faut que je fasse attention. Direct quoi, vraiment le mufle total.
Ouais.
Donc, mais bon, évidemment, il perd bien ses fins parce qu'elle, elle n'attend que ça. Le but de sa vie, c'est les papillons dans le ventre. Hein. Mm. C'est vraiment ça. Donc, elle résiste un peu, mais pas longtemps. Ouais. Hein, voilà. Et sauf qu'elle finit assez rapidement par ennuyer Rodolphe.
Oui.
Avec son romantisme complètement. Voilà,
et puis elle prend des risques aussi parce que quand elle court dans la campagne pour aller le retrouver.
Lui, il veut surtout pas que ça se fasse. Hein, voilà. Et elle prend des risques, elle commence à en vouloir trop.
Il est cruel quand même parce qu'il la laisse jusqu'avant. Ils ont convenu de s'enfuir.
Oui.
Parce que c'est romantique et chevaleresque.
Ouais.
Et jusqu'au dernier moment, il lui fait croire que.
Oui.
Enfin, il pousse le vice, quoi. C'est vraiment pas un bon gars.
Effectivement, il la plante, hein, autant le dire. Voilà. Il la plante, finalement, ils partent pas. Donc elle, désillusion totale.
Elle
est en cavale avec son
redépression, quoi.
Redépression, exactement. Donc voilà, alors là, elle finit par par avoir un autre truc qui lui met des papillons dans le ventre, c'est de se dire, je vais faire de mon mari une star. Donc elle le pousse très fort à faire une opération de pied beau, je crois, dans le petit gars du coin, voilà.
Ouais.
Donc ça en parle dans la presse, ça va être incroyable, une avancée, et ce sera Monsieur Charles Bovary qui va faire ça. Donc voilà, elle le pousse complètement. Lui, il est tellement malléable, il a tellement envie de faire plaisir à sa femme qu'il se laisse convaincre.
C'est ça, parce que dès le début, ils expliquent que Charles, c'est un médecin.
De campagne,
c'est un médecin hyper très prudent.
Mais oui.
Il veut surtout pas aller dans de la médecine trop poussée.
Mais non, mais parce qu'il a pas les capacités. Voilà, ça,
il est intelligent, Charles.
Oui, bien
sûr. Il sait très bien ce qu'il en est de sa propre personne et de ses propres capacités. Mmh. Et là, c'est sa femme qui le. Je veux être la femme d'un homme connu parce que ça va m'apporter quelque chose et ça va me faire justement les papillons dans le ventre et je serai très.
Et on en parle jusqu'à Rouen.
Et, ouais, c'est ça.
Oh là
je
là
serai connue à la capitale, tu vois, à la capitale.
Et sauf que cette opération est un fiasco total. Le gars se retrouve avec une jambe en moins, quand même.
Et amputé.
Et le gentil Charles va quand même lui payer sa jambe de bois.
Ouais.
C'est quand même la moindre des choses. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, c'est super. Donc, Emma, elle a honte de son mari. Hein. Jamais elle se dit... connaît quoi aussi machin.
Non
mais c'est il est juste, nul mais quelle médiocrité ce Charles, il a pas réussi,
insupportable.
Donc paf, nouvel échec, la star c'est pas pour aujourd'hui, d'accord.
Et donc je retombe en dépression.
Donc elle retombe en dépression et finalement c'est vrai qu'on a oublié de parler de Léon qui intervient avant quand même.
Ouais, Léon quand elle arrive à Lyonville-l'Abbaye, elle c'était l'aide du clerc de notaire, je crois.
Il flirtouille.
C'est ça. Ils passent du temps ensemble, mais jamais ils ne franchissent...
Non, mais ça, on sent qu'ils se plaisent.
On sait que Léon est amoureux d'elle. Il y pense. Et puis elle aussi, mais jamais ils ne savoureront.
Voilà, il se passe rien. Lui, il s'en va
à Rouen.
Voilà. Et après, il y a...
Il va à Paris. Parce que Flaubert fait une description géniale. Et j'adore ce mot de lui. J'avais oublié quand il dit que Paris, en gros, c'est... la fête, l'alcool et les grisettes, donc les prostituées, quoi. Les grisettes, je me dis, oh, c'est génial, j'adore ce vocabulaire qu'on a un peu oublié, etc.
Complètement.
Donc voilà, la description de Paris fait pas non plus rêver, quoi.
Non, bah, c'est
à l'époque.
Et c'est vrai que ce Léon l'oublie un peu, il disparaît un peu du décor, et donc on a l'épisode Rodolphe, l'épisode du pied beau, et puis finalement elle retrouve Léon
à Rouen,
à l'occasion d'un
concert, c'est un concert qu'elle voilà. auquel elle va assister pour se changer les idées c'est après ça. Sa deuxième ou troisième dépression. Bien, voilà. Donc il faut lui changer les idées.
Elle retrouve Léon et puis de fil en aiguille, bon, effectivement, il se passe ce qui doit se passer. Ouais. Hein.
Non, alors cette là, on a scène.
L'épisode du fiacre.
Le fiacre.
C'est génial.
Épisode le fiacre, qui a c'est été, une.
Oui. Une voiture à cheval.
Une voiture à cheval, voilà.
Ah, c'était dans les... un taxi, hein.
C'est ça, voilà, ouais, c'est ça.
C'était le taxi.
Dans lequel ils montent et ouais. disent au chauffeur de continuer, sans voilà. destination, mais continuer à rouler.
Et on sait ce qui se passe,
mais ce qui se passe.
Pourtant, c'est pas écrit.
Bah non, parce que ça chaote tellement
voilà.
qu'on sait qu'ils doivent être dans des ébats violents.
Cette scène est géniale parce que, au lieu de nous expliquer les ébats qui se passent à l'intérieur, il nous décrit tous les endroits par lesquels ils passent.
C'est ça.
Donc c'est génial, et pourtant cette scène a été censurée et coupée au départ du livre, parce que, oh mon Dieu, quelle
c'est
scène
scandaleuse.
La pornographie.
Voilà.
Et alors ceux qui ont lu
Fifty Shades of Grey se diront, waouh.
On va bien se tenir.
C'est ça.
Et pourtant, il y a, mais c'est ça qui est beau, dans, ouais, qui est génial de Flaubert, il n'y a pas un mot sur ce qui se passe en vrai.
Oui, c'est ça, il n'y a jamais un...
On peut tout imaginer.
Il n'y a même jamais un bisou sur la bouche, je crois, hein.
Pas à ce moment-là, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre moment dans... Ouais, je sais plus. Bon, je sais
ouais,
plus.
Mais allez. Ça reste, enfin, voilà, mais c'est...
Bien sûr,
tout
bah,
est suggéré,
c'est la littérature 19e,
c'est
quand
ça,
même.
Quand même, il ne va pas non plus... voilà.
À cette époque-là, on reste sur des suggestions.
C'est ça.
Et là, c'est complètement suggéré, on a tous compris ce qui se passait.
Oui,
bah,
et puis on sait que c'est violent, voilà. quoi.
En passant par la rue, machin, le cabinet... Ouais, c'est génial.
C'est génial.
C'est incroyable, cette scène.
Voilà.
Voilà, donc elle entretient cette relation avec Léon, donc elle monte souvent à Paris pour faire des
Rouen.
Cours de piano.
Non, parce qu'il est
ah
à
non,
Rouen,
oui,
ouais, c'est ça.
Il est chez un notaire à Rouen, finalement. Et donc elle va à des cours de piano, ouais. hein, fictif.
Des pianos. Puis elle prend de l'argent à son mari, et puis le problème, c'est qu'elle en prend de plus en plus pour payer ses cours de piano fictifs. Et je veux savoir que Emma aussi, elle aime les belles choses.
Oui, elle vit au-dessus de ses moyens complètement.
Totalement, et qu'elle s'endette.
Elle s'endette, elle ment à son mari. Voilà, il sait pas, il
fait
des reconnaissances de dette, des choses
c'est
comme
la cata.
Ça. Et donc voilà, donc quand même, au bout d'un moment, entre ses âmes, enfin, plusieurs amants, ses dettes, avec ce monsieur en plus pas très agréable, ouais. hein, celui à qui elle doit d'argent.
Monsieur Lheureux.
Qui l'amène de plus en plus dans
c'est
la.
Ça. Voilà. Et puis en plus, qui sait très bien ce qui se passe,
oui,
parce qu'il est très intelligent, qui joue là-dessus et sur la peur d'Emma de se faire démasquer
voilà.
par son mari. Mmh. Donc Monsieur Lheureux lui extorque de l'argent et puis elle s'endette de plus en plus. Enfin, c'est la cata, quoi. du
Sauf
début
qu'un
à la
beau
fin,
jour, il décide d'arrêter de lui accumuler ses dettes et maintenant il faut les payer.
C'est ça.
Et là, est-ce qu'on dit la fin ou on s'en va pas de
et là, oui, de toute façon, tout le
monde
sait.
Connaît, c'est pas un
classique.
Depuis le 19e, fallait le lire.
Ça.
Ben, en fait, elle veut rentrer tout dire hein, à Charles. Et puis, sauf que quand elle arrive, il y a déjà, je sais plus, les huissiers ou je ne sais plus. Et donc là, c'est fini entre ça et ses relations avec. Parce que Léon, c'est fini.
Ouais, Léon.
Elle a essayé de lui extorquer de l'argent, il ne veut pas. Rodolphe, elle retourne le voir, il ne veut pas. Il y en a un qui essaye de profiter d'elle, là,
oui.
le notaire ou je
oui,
sais plus.
Un juge ou...
Voilà. Ouais. Bon, non. L'autre, il lui fait du chantage pour l'argent. Donc, elle rentre, elle voit qu'il y a déjà les huissiers, tout son
et
monde
tout le monde a laissé tomber. Hein.
Ouais.
Parce que cette histoire d'amour avec Léon finit en nœud de boudin parce que finalement, ils se lassent tous les deux.
Ouais.
Puis lui, il se dit, je vais bientôt devenir notaire quand même. C'est pas très sérieux d'avoir une maîtresse, même si je l'ai aimée. Donc, je vais m'en débarrasser aussi. Donc, super, bravo. Ouais. Rodolphe.
Ils s'en foutent. Oh, puis ça fait longtemps que c'est fini.
Puis elle essaie quand même de le comment? Oui, elle va chez lui en lui faisant croire je t'aime toujours, etc. Donne-moi de l'argent. Et lui,
non,
il le prend un peu mal.
Il serait pas contre pour retourner dans une aventure. Mais là, elle est dans du fric.
Un petit goût de reviens-y.
Voilà.
Mais il n'est pas d'accord pour lâcher de l'argent.
Voilà.
Et donc, elle n'a plus aucune solution.
Et donc
puis,
là, elle se dirige vers chez l'apothicaire. Elle chope l'arsenic et voilà.
Et s'ensuit une scène d'agonie.
Très longue.
Très longue et très, très descriptive. Très, très réaliste.
Avec un Charles malheureux comme la pierre.
Ah oui, mais Charles Bovary.
Quel gentil Charles.
Ah non, mais il est adorable. Mais en fait, c'est pas la fin du roman.
Non.
C'est pas
tout à fait.
Le roman Madame Bovary ne se termine pas sur la mort d'Emma Bovary. Il a commencé avec la fameuse casquette de Charles quand il est adolescent et qu'il arrive à l'école.
Sa casquette ridicule,
voilà, avec tous ses copains qui lui tapent dessus
voilà.
et se moquent de lui. Et en fait, le roman finit avec Charles qui vit sans Emma et qui
et
se...
fille.
Voilà,
parce
et leur
qu'ils
fille,
ont quand
Berthe,
même une fille,
Berthe.
Voilà, qui finit dans la misère totale, bosser à l'usine.
Ouais. Et Charles qui est malheureux comme les pierres, qui pardonne tout à sa femme. Il découvre, il a quand même découvert le poteau rose à un moment, et même en découvrant ça, il est d'une gentillesse et d'une bonté d'âme. Je sais pas si c'est ridicule, parce que j'arrive pas à le trouver ridicule.
Non, il est pas ridicule.
Je pense que c'est Emma qui a essayé de nous le rendre ridicule.
Ouais.
Et en fin de compte, c'est un bon gars. Peut-être trop un petit peu un canard, ce qu'on dirait maintenant à notre époque. Elle a un petit pigeon. Mais, et donc, ça finit sur une magnifique scène de la mort de Charles, en fait.
Bah oui, mais voilà. Mais moi, je voudrais quand même redonner à Emma, malgré
tout. Battons-nous.
Non, mais parce que maintenant, on n'est plus à cette époque-là. Ouais. Et Emma a été mal mariée et Emma n'a pas été heureuse de sa vie. Et puis, c'est vraiment une époque comme ça où on marie les personnes qui cochent les bonnes cases, mais c'est pas une histoire d'amour.
Puis c'est surtout la description aussi de la condition féminine où tu peux rien faire. Mais non. Ta vie, elle est comme ça et tu sais que dans tout... Et elle le dit souvent, elle le dit à Léon, elle le dit à Rodolphe, à plusieurs reprises, c'est-à-dire, là, je suis en prison. C'est-à-dire que moi, tous mes rêves... Il faut que je suis censée vivre en mettant tous mes rêves de grandeur et de chevalerie et tout ça de côté parce que ma vie, en fait, ça va être linéaire jusqu'à la fin et je vais rester là, entre les murs de Yonville-l'Abbaye. Mais peut-être loin un petit peu parce que je vais aller au théâtre et faire voilà. Mais ça va être ça ma vie, toute ma vie.
D'ailleurs, elle veut un fils quand elle est enceinte. Ouais. Pour vivre à travers lui, tout ce qu'elle peut pas faire.
Et que lui soit hyper libre, etc. Voilà.
Et elle va vivre pas par procuration. C'est ça. Mais elle a une fille. Encore une déception, quoi.
C'est ça. Voilà. Et puis Berthe, pourquoi elle l'appelle Berthe? Parce que c'est un prénom qu'elle a entendu lors du fameux bal au château de Vaubuissard. Et c'est une des grandes dames qui s'appelle Berthe. Ouais. Elle dit, ma fille doit porter un nom... un nom...
Qui l'a fait rêver, elle, en tout cas.
Ouais.
Voilà. Sa fille qu'elle a du mal à aimer. On sent pas qu'elle l'aime pas, mais... Elle trouve pas son rôle de mère.
Ouais. Elle le trouve pas. C'est pas fait pour elle. Elle est au-dessus de ça.
Ouais, en tout cas, elle est pas faite. Pourtant, on sent qu'elle attend quand même l'arrivée de ce bébé par curiosité de savoir ce que ça va faire. Charles, il est heureux.
Charles, il est
le bonheur. Mais voilà, cette petite fille, elle va quand même vivre une vie malheureuse, quoi.
Ouais.
C'est ouais.
Et puis au final, sa mère, de s'être comportée de façon si inconstante, donc, va causer sa perte, en fait. Et le fait qu'elle aurait pu avoir une vie tranquille, mais de femme de cette époque.
Ouais.
Et finalement, dans la misère la plus totale, sans plus rien, sans papa, sans maman.
Parce que ce charme meurt assez vite quand même, et elle se retrouve adoptée, je sais plus. Puis après, il n'y a plus rien, et elle se finit à l'usine... Alors que c'était une fille de médecin de campagne, ça porte pas
si mal. Oui, et elle aurait pu faire un bon mariage elle aussi. T'as aimé travailler sur Madame Bovary?
J'ai adoré. Déjà, Madame Bovary, elle est... Alors, sur un aspect complètement esthétique, elle est géniale à dessiner. Moi, j'adore. Elle est... la description qu'il en fait à un moment, avec ses grands bandeaux noirs qui lui tombent comme ça, avec une raie bien blanche, là, comme ça... Voilà, ses yeux de biche, plus ou moins, et tout. Moi, ça me régale.
D'accord,
Donc, comme je devais dessiner son portrait, c'est un vrai plaisir de la dessiner.
Ok.
Et puis, les trucs d'époque, moi, j'adore.
Ok. Et tu referais des projets comme ça? Est-ce que tu as déjà... Alors là, on a dit, tu travailles sur une BD autour de l'allaitement, donc pour la rentrée 2022, voilà. Ouais. Est-ce que tu te vois faire un autre style de projet? Un autre... revenir chez Tiber Édition pour
faire un
autre. On lance des idées comme ça. Mais revenir et réillustrer un autre roman, peut-être totalement différent, peut-être.
Mais carrément. Ben, carrément, moi je suis ravie parce que autant j'adore ce que je fais sur tous les thèmes de la maternité, la parentalité, et je continue parce que j'adore ça, autant de temps en temps me faire comme ça, cette parenthèse sur...
qui change totalement de ton travail dont t'as l'habitude.
Mais c'est génial, moi j'ai adoré ça.
Ça te permet d'explorer d'autres choses.
Exactement, je me suis régalée à faire ça, franchement.
Ouais. Et en parlant d'explorer d'autres choses, on a vu sur ton Instagram il y a quelques jours, je sais pas si tu l'as mis en story permanente ou enfin je sais pas, mais ton travail sur avec de l'encre de Chine autour du portrait d'Emma, c'est dans quel... contexte sacré.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a une des contreparties.
Des lots de la campagne Ulule.
Il y en a un où on peut avoir un dessin dédicacé. Et donc, il est limité à 50 personnes
parce que tu peux pas
pas une machine. chaque dessin est un original, en fait. Ouais. Et donc, j'en ai déjà 40 à faire, là. pas mal. Presque fini. Et effectivement, bah, comme c'est des originaux, je suis partie bah, cette fois sur du papier. Donc, comme quoi, on peut y arriver aussi, hein, ouais. Même en faisant de la tablette graphique. Et c'est vrai que c'est ces grands cheveux noirs, moi, qui sont caractéristiques de ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça que je l'aime, Emma, avec ses grands cheveux noirs, et bah, je les peins à l'encre de Chine pour que ce soit un beau noir bien pur, là. Ouais. Et j'adore faire ça.
Ok, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton travail sur Madame Bovary. Et puis, on te retrouve donc pour la sortie de ta BD. Est-ce que tu as déjà un titre
Non, alors, il est non. Et franchement, ma première, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à me la trouver. C'est un vers de Victor Hugo. Mais là, okay. J'ai avoir du mal à trouver un vers de Victor Hugo
sur la lettre maternelle.
Donc, bon, non.
Peut-être cette fameuse phrase sortie de Madame Bovary, retravailler une idée novatrice.
Je pense que ça va être moins poétique et plus ouais. Droit au but, mais okay. Voilà, je cherche encore.
D'accord, et eh ben écoute, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton travail sur Madame Bovary qui sort donc, on le rappelle, le 15, à partir du 15 avril dans les meilleures librairies, de France et de Navarre. Et puis on espère te retrouver bientôt. On va aller voir ton travail sur tes réseaux sociaux.
Et il y aura probablement une dédicace à Paris. De Madame Bovary dans une librairie, donc suivez bien les réseaux sociaux
de Tiber et pour, les voilà. Tiens de Corrigan Instagram pour vous tenir au courant. Et ben écoute, je te souhaite une belle journée.
Merci Marjolaine
et
merci
puis à très Tiber. Bientôt. Bye bye, merci Tiber, bye bye.
Merci encore à Anne d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante contact@tiber-edition.fr. On se retrouve dans 15 petits jours pour un nouvel épisode. François et Camille nous présenteront l'histoire de la maison Tiber Édition. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.